enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Jacques, avec ton flair habituel, tu as mis le doigt sur un des sujets que je considère le plus important, car ce soir, il va falloir réviser beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La connaissance, c'est quelque chose de que l'on s'imagine ouvert devant nous, alors que ce que le Seigneur a de près révolutionne tous nos concepts. Et souvent, on passe à côté parce qu'on lit la parole de Dieu sans trop s'en rendre compte de la profondeur de ce que Dieu a mis pour nous. La connaissance, voici un thème qui touche là à la racine d'une motivation fondamentale chez l'homme, connaître. Déjà, l'être humain au stade de bébé essaye de percevoir le monde autour de lui. C'est une connaissance très élémentaire par les sens, de vision, de toucher, le son, le contact. Mais cette motivation sera avec l'homme jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. Il s'interrogera sur tout ce qu'il est lui, sur ce qui l'entoure, et il le fera avec les moyens qu'il a, ses sens et l'extension de ses sens dans le domaine de la science, c'est-à-dire ses instruments scientifiques. Et au-delà de l'instrument scientifique, son pouvoir interrogateur, intellectuel, son pouvoir spéculatif, ce ferment extraordinaire qui lui permet, comme à Einstein, de voir tout un pan de la nature sous un angle complètement nouveau. Et Einstein lui-même, d'ailleurs, sera dépassé. Il est sur le point en ce moment. Des choses nouvelles arrivent. Mais j'aimerais déjà sonner une note peut-être inquiétante pour certains d'entre nous ce soir. En particulier pour ceux qui pensent que la connaissance, et surtout celle qui culmine le reste, c'est-à-dire la connaissance scientifique, est l'approche vers la réponse à la question « Quel est l'univers qui nous entoure ? Qui sommes-nous ?» Cette note, c'est la suivante. L'homme a une vue illusoire sur la connaissance. Qu'est-ce qui me permet de dire cela ? Parce que, avant d'entrer dans le détail, au mieux, la connaissance peut être vue comme un processus d'accumulation de données, de preuves, d'explications qui arrivent à notre perception, qui sont digérées par notre compréhension et que nous ressortons sous forme d'explications, de théories, de modèles. Et alors, cette connaissance est illusoire parce qu'elle ne s'attache qu'à ce qui est perceptible. Tout ce que l'homme ne peut percevoir, que la Bible d'ailleurs appelle l'invisible, dans une connaissance dite rationnelle, est complètement écartée. En disant, tout cela c'est du mysticisme, c'est des cuillères qui se tordent tout seuls, c'est des choses comme cela, on en a peur. Dans un sens, pour une certaine sanité intellectuelle, il est bon, mais déjà il y a un réductionnisme, c'est-à-dire une réduction de ce qui nous entoure, des phénomènes, à des critères bien connus, notre façon de raisonner, comment nous avons été formés. Et ainsi, on arrive dans une compartimentation de tout ce qui nous entoure. On est obligé de mettre des mots sur les choses. Les mots deviennent des grands mots, des théories. Et l'on construit des petites boîtes. On parle de connaissances, tout d'abord sensorielles, celles des sens. Celles qui nous arrivent du monde par l'intermédiaire de tout ce qui est notre faculté de perception autour de nous. Ensuite, connaissance, une autre boîte, connaissance intellectuelle. Et même plus tard, lorsqu'on entre dans la foi, on construit malheureusement une boîte qu'on appelle connaissance spirituelle. Et on voit mal comment on passe d'une boîte à l'autre. Et c'est là où nous attendent les gens qui se posent des questions. Eux, ils sont contents dans leur boîte, mais ils ne veulent pas franchir la porte et entrer dans l'autre boîte. Mais il n'a jamais été question de boîte comme nous allons voir. Et alors, si l'on prend le thème de ce soir, connaissance de Dieu, et que l'on reste prisonnier de ces boîtes, Et je suis sûr, c'est votre expérience quand vous en parlez autour de vous. Ou même, c'était votre expérience avant vous n'ayez connu la foi. On voit la connaissance de Dieu comme une surajouture, une addition sur tout ce qui est déjà connu. Alors il y a le problème, comment est-ce qu'on va ajouter cette boîte supplémentaire qui est Dieu? D'autres disent, ah mais c'est une boîte qui englobe toutes les autres boîtes. Alors on essaye de vendre un peu cette idée de Dieu. On essaye de la propager, on essaye de s'interroger, et on arrive aussi à un langage d'expression au sujet de Dieu. La doctrine sur tel et tel aspect. Et tout cela, comme toute forme de connaissance, débouche finalement sur quoi? Sur un langage. Car même la science, chers amis, n'est qu'un langage qui décrit l'univers d'une autre façon. Il y a d'autres façons de décrire l'univers, une façon poétique, une façon religieuse, philosophique. Mais tout ne débouche que sur une description au niveau langage, des langages très évolués, certes. Et même on décrit Dieu sans se rendre compte qu'à la limite, on enferme Dieu, la connaissance de Dieu, dans ce qu'on appelle un concept. Dieu, c'est la Trinité. Dieu, c'est ceci. On ramène Dieu à ce qu'on en dit. Bien sûr, d'autres personnes ne vont pas jusque-là et ramènent Dieu au niveau d'une expérience. Bien sûr, quand Dieu entre dans la vie, il y a interaction, il y a quelque chose qui se passe, mais si l'on n'y prend pas garde, on réduit Dieu à l'expérience qu'on en a faite. Et ça, c'est grave aussi. Parce que Dieu explose tous les concepts. Dieu dépasse, transcende toutes les expériences. Si Dieu apparaît à travers un langage, lorsque nous en parlons, s'il apparaît au niveau d'une expérience sur le plan personnel, il est bien plus. Et pourtant, connaître Dieu est vital. Nous allons voir que l'homme est fait pour connaître Dieu. Et quand je dis connaître, déjà je dis essayez d'éliminer de votre cerveau, de votre entendement, tout ce que vous entendez par connaître. Dans le sens de, juste comme l'enfant ou celui qui grandit, qui passe par l'université, essayez d'éliminer de votre esprit le fait que connaître Dieu, c'est en apprendre sur lui. Connaître Dieu, c'est bien plus. Le résultat de connaître Dieu, dans la réalité de Dieu, dans la réalité de connaître, nous allons l'avoir. Mais cela pourra se traduire par aussi savoir plus au sujet de Dieu. Mais ça, c'est une toute petite partie, une toute petite projection de la connaissance. Connaître Dieu, il faudrait presque changer le mot « connaître » pour parler vraiment de la connaissance de Dieu. Car nous avons trop de préjugés au sujet de la connaissance. Nous pensons que connaître, c'est d'abord qu'il y ait une interaction, que j'observe, que je réfléchisse, que je parle, j'explique, et que j'accumule toute une série d'expériences. Et quand j'en ai plus qu'un autre, je dis « je connais Dieu plus que vous ». Mais ce n'est pas ça la connaissance de Dieu. Ça n'a rien à voir. C'est juste une toute petite, infime allusion à Dieu, je dirais. Allusion. C'est bien plus. Dieu nous a fait pour beaucoup plus. Et je dirais que c'est tellement important que tout homme qui ne connaît pas Dieu réellement est un être aliéné. Aliéné sur le plan le plus fondamental. Oh, il peut avoir toutes ses facultés mentales, intellectuelles, physiques. Il n'est pas aliéné de ce côté-là. Mais aliéné sur le plan fondamental veut dire il lui manque quelque chose d'essentiel, il n'est que l'ombre de lui-même, car connaître Dieu dans sa réalité est la vie. Et tant qu'il demeure en deçà ou en dessous de cette connaissance réelle, tant qu'il la réduit à ces formes que nous pensons être celles de la connaissance, il n'est qu'aliéné. Il lui manque quelque chose d'essentiel. Alors la question se pose, si c'est si fondamental, alors pourquoi connaître Dieu? Est-ce vraiment quelque chose qui touche à ma vie? Est-ce que vraiment je vis en dessous de ce que Dieu m'a fait pour être si je ne le connais pas? Et puis après tout, qu'est-ce que connaître Dieu? Mais alors puisque vous éliminez, frère, cette notion de connaissance, vous avez très très vaguement esquissé, Est-ce que connaître Dieu, c'est bien plus, mais c'est quoi exactement? Et même si vous nous disiez ce soir c'est quoi, comment est-ce qu'on entre dans cette connaissance? Voyez les questions que nous nous devons poser tout au long de ces sessions. Car nous allons en avoir 5. Et je vais vous donner les titres. Vous allez voir que on va réviser tout. Ce n'est pas ma théorie. Je n'ai rien à apporter de moi-même. Rien. Et d'ailleurs, il a fallu que je fasse le vide de mes propres préjugés. Car notre idée de la connaissance, aussi raffinée soit-elle, est un préjugé qui est souvent un obstacle. Tout passe par une croix, c'est-à-dire une mort à toute forme de préjugé, afin que Dieu, dans ce qu'il a préparé au niveau de la connaissance de lui par nous, puisse se révéler à chacun de nous après ces sessions que nous allons avoir ensemble. Voici notre plan. Ce soir, le titre, c'est « La connaissance de Dieu, un héritage déjà acquis ». Premier paradoxe, c'est déjà en nous. Seulement, il faut que ça se réactive. Demain matin, entendre et voir, dans le sens de « mon oreille avait entendu parler de toi et mon œil t'a vu », entendre et voir ou les premiers pas vers la connaissance. Samedi après-midi, entrer, c'est la suite d'entendre et voir, entrer et croître dans la connaissance. Dimanche après-midi, la dynamique de l'esprit dans le mouvement vers la connaissance. Nous allons voir que l'Esprit de Dieu joue un rôle essentiel, fondamental. Et comment l'homme, par ses controverses, ses arguments, et je dirais même ses théologies sur l'esprit, finalement ne connaît rien sur l'esprit. Nous verrons que connaissance, connaître l'esprit, connaître Dieu, c'est d'abord être connu de lui. C'est une relation. Et enfin, lundi matin, le parachèvement de la connaissance, là où elle débouche. Nous avons là, devant nous, sur notre plateau, quelque chose de nourrissant. Comme à l'habitude, vous allez me dire, avec le frère Tarasenko, c'est du solide. C'est indigeste à la limite. Il n'est pas question de digérer. Ne le mettez pas dans l'estomac ou même dans le cerveau. J'aimerais faire cette note pour vous prévenir. Je la fais souvent, mais je crois que je ne le répéterai jamais assez. Vous n'êtes pas ici pour comprendre. Ne mettez pas comprendre comme précondition pour recevoir. L'homme n'a pas été fait pour comprendre d'abord avant de recevoir. Ça, à la limite, si vous érigez ça comme priorité suprême, c'est une autre forme d'aliénation. Nous sommes ici pour recevoir, non pas ce que dit l'orateur, mais ce que Dieu vous a apporté personnellement pour vous ce soir et qui va être véhiculé par les paroles d'un orateur. Avec toutes les imperfections de ces paroles, Dieu est tout puissant pour les couvrir, car il vous parle ce soir. Il veut vous parler. Il veut vous faire entrer dans sa connaissance, et c'est seulement dans sa connaissance que vous, que moi, que nous vivrons, que nous pouvons vivre. Non pas l'idée que nous faisons de la vie spirituelle, ou autre, ou chrétienne, comme nous l'appelons, mais une vie avec une dimension que simplement quelques rares chrétiens ont connu, car ils sont passés par cette expérience fondamentale, ce creuset, comme nous allons voir, où la note fondamentale est la croix. Maintenant, entrons dans le sujet et disons, dès le départ, que la connaissance totale de Dieu, ce n'est pas seulement, comme certains pourraient le croire, un à côté fondamental, c'est le but même, c'est le sens de la création. Dieu a créé l'univers et l'homme pour que l'univers et l'homme le connaissent. Voilà le but de la création. Mais le connaître, ce n'est pas à travers une académie de sciences ou de théologie ou passer 10 ans à faire des études. La connaissance de Dieu, c'est toute une vie. C'est toute l'histoire de la création. C'est un mouvement. La connaissance, ne s'acquiert pas sur terre. Sur terre, on vit une progression vers la connaissance. C'est quelque chose qui grandit sans cesse à travers les étapes que nous allons voir. Mais la connaissance débouche dans quoi ? Non pas dans une interrogation suivie d'explication. La connaissance, c'est une intégration, c'est une union totale, c'est l'union totale avec Dieu. Connaître Dieu, c'est s'unir totalement à lui. D'où cette progression, car nous sommes loin d'être totalement unis à lui. Mais c'est tout le sens de notre vie, c'est ce mouvement vers cette union totale. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, vous connaissez tous ce passage qui suit la description de l'amour par Paul. Dans 1 Corinthiens 13, des versets 8 à 13, Paul dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, au verset 9. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Déjà, ces paroles extrêmement riches de Paul nous donnent comme un écho de ce que sera la connaissance. Connaître, c'est être connu. Mais c'est comme deux pôles qui se rapprochent progressivement, et un jour, il y a une union totale. Enfin, je connais comme j'ai été connu. Mais cela ne peut se réaliser que dans le contexte de ce qui ne changera pas, l'éternel. C'est-à-dire, le contexte terrestre n'est pas un à côté dont on se passerait bien, on voudrait tout de suite entrer dans l'éternel, non. Le contexte terrestre, la vie dans laquelle nous sommes, notre tous les jours, avec ses petits pépins, avec ses petites joies, avec cette routine, tout cela, c'est déjà le creuset de cette connaissance. Ce n'est pas quelque chose qui chemine à côté, dans des réunions, dans des moments de méditation. Certes, réunions, moments de méditation sont des accélérations extraordinaires quelquefois dans cette marche. Mais le vécu de tous les jours et le plan sur lequel le cheminement se fait, c'est là-dedans que nous commençons à connaître, comme nous allons le voir, et un jour, nous sommes appelés, comme dit Paul, à entrer dans ce qui est parfait. Quand nous aussi, nous serons devenus parfaits, nous reviendrons sur ce thème, car notre vocation, ce n'est pas d'être très bon, c'est d'être parfait. Voilà ce que Dieu a prévu. Donc, tout ce qui est temporel et transitoire, c'est la rampe de lancement. C'est ça le sens de l'histoire. Le sens de la création n'est pas fait pour être trouvé au moment où nous vivons, ou au départ, mais à la fin. Quand le parfait est venu. Et tout ce qui précède est en quelque sorte axé là-dessus. Donc sur terre, nous vivrons une anticipation. Et je vous ferai remarquer, peut-être un jour j'aurai l'occasion de le traiter ici, ce thème, le mariage. Voilà un vécu, voilà une anticipation de la connaissance, dans son sens le plus noble, celui qui dépasse tout notre entendement, qui est réalisable déjà dans le vécu du couple. Je reviendrai peut-être sur ce point par la suite. Mais notre histoire, et je me rappelle en avoir parlé ici il y a à peu près un an, quand j'ai fait, je crois, 5 ou 6 sessions sur la création, nous avons vu que notre histoire démarre sur une ébauche. Évidemment, c'est ainsi que l'artiste travaille. Je suis sûr que lorsque nos amis de Lille ont commencé à étudier ce magnifique morceau, ça a commencé sur le ton d'une ébauche. Il y a eu des retouches à faire, des morceaux à rejouer, et vous aurez entendu l'expression ce soir, de ce à quoi conduit cette progression au cours de cette préparation. C'est tout le sens de la création. Démarre sur une ébauche. Et cette ébauche a un caractère qui n'est pas vilain, puisque Dieu l'appelle très bon pour l'homme. Mais ô mystère de la sagesse de Dieu. Le but du très bon, c'est pour nous montrer qu'il n'est pas viable. Le très bon, est chutable, si je peux me permettre cet adjectif. Si l'homme a été fait très bon, c'est pour réaliser que s'il n'avait qu'à s'appuyer sur son très bon, il ne tiendrait pas. Il n'est même pas capable de faire le bon choix devant le bien et le mal. Il n'est pas mûr, en fait. Il n'est même pas mûr au niveau du très bon pour faire un choix correct. Pour faire un choix correct, il faut être libre. Or, au moment de l'ébauche, l'homme n'est pas encore libre. La liberté, c'est la faculté d'être 100% dans le plan de Dieu, de faire 100% la volonté de Dieu. Mais ça, c'est le sens du mouvement. Donc au départ, il est fait très bon, c'est une esquisse, mais l'homme va se rendre compte que par lui-même, il ne peut pas survivre, il ne peut que chuter. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cette voie et pas une autre ? Pouvoir répondre à cette question serait déjà être l'égal de Dieu en ce moment. Mais Paul nous dit bien, un jour nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et la réponse, je devrais même rayer le mot réponse, ce sera plus qu'une réponse, ce sera le vécu du pourquoi que nous nous posons en ce moment. Donc, un départ sur une note de très bon, mais une chute. Parce que le très bon n'est pas viable, le plan de Dieu pour l'homme, pour la création, c'est la perfection. Car s'il y a union finale, Dieu ne peut s'unir à lui quelque chose qui ne soit pas parfait. Même le très bon ne peut pas s'unir à Dieu. Il manque quelque chose au très bon, il y a encore toute une distance par rapport au parfait. Et le cheminement du très bon au parfait sera le sens de notre histoire. Avec, entre-temps, la chute et la rédemption. Ne dissocions jamais les deux. Seul Satan essaiera de couper et dire, s'il y a la chute, Dieu est un Dieu cynique, il a créé l'homme pour qu'il chute. Or, Ésaïe le dit très bien, dans le chapitre 43, il le dit, si l'homme est sujet au mal, dont Dieu a le contrôle, il y a aussi la rédemption, la terre s'entr'ouvre pour laisser germer le salut. Chute et rédemption sont profondément associés. Et comment nous le vivons cela? Je vois, en toute honnêteté, je vais vous le dire, au niveau de mes enfants, j'en ai 4. Il a fallu que 2 revivent ce syndrome de l'enfant prodigue. Il a fallu qu'ils chutent, qu'ils s'éloignent de cette foi qu'ils avaient reçue, qu'ils la jettent par-dessus bord pour y revenir. Parce que leur foi au départ était une foi très bonne, mais elle n'était pas encore viable. Il a fallu qu'ils chutent pour revenir. Est-ce une loi générale? Je ne fais aucune loi. Pourquoi c'était leur voie, et alors que les deux autres ont suivi une voie différente, celle peut-être du fils aîné, dans l'histoire du fils prodigue? Je n'en sais rien. Mais combien de fois nous apprenons que parce que nous nous cognons la tête? Souvent, il faut que quelque chose casse pour que nous voyons. C'est la marque de notre histoire. Et là où le mal abonde, voilà la grâce surabonde. Je suis sûr que parmi ceux qui se sont éloignés très loin du Seigneur, après avoir tant reçu dans leur famille, et je parle des parents dont les enfants sont peut-être partis très loin, rappelez-vous toujours une chose, s'ils sont partis très loin, si le mal a vraiment abondé plus que dans d'autres familles, je vous assure que la grâce va surabonder. Elle est toujours un ton au-dessus, car le plan de Dieu, ce n'est pas la chute, c'est la grâce, même si ça passe par la chute. Rédemption. Pivot de notre histoire. Parce que la rédemption n'est pas une solution de secours, la rédemption est, suivant cet agneau immolé depuis le commencement des temps, dans le plan de Dieu. Car à travers la rédemption va sortir notre dimension réelle. Et quand je dis rédemption, je ne le dis pas à la légère. C'est pas simplement une petite conversion, et puis alléluia, je suis en route pour le ciel. Nous allons voir que rédemption est une œuvre qui traverse notre vie à partir du moment où nous tournons vers le Seigneur, qui va traverser notre vie par une puissance extraordinaire, la seule qui a défait le mal, la puissance de la croix. Rédemption, c'est tout cela. Mais rédemption, pour faire germer, émerger cet être réel que nous sommes, qui était couvert de scories, que nous ne pouvions pas voir, est fait à l'image de Christ. Dans une progression, et le salut s'achève lorsque nous sortons du temps et de l'espace, par la mort du dernier bastion, notre corps, celui qui nous tirait toujours en arrière. J'aime beaucoup l'anglais, je le répète, dans cette façon progressive qu'ils ont de parler du salut. Et j'ai une Bible, un Nouveau Testament Philips, qui emploie toujours la forme progressive. Il ne dit pas « vous êtes sauvé », « vous êtes étant sauvé ». Vous êtes étant sauvé. C'est une progression. C'est un travail permanent. Ce n'est pas statique le salut. C'est un travail permanent. Ce n'est pas fait par nos œuvres. C'est l'œuvre de Dieu, celle de la croix qui travaille en nous et qui progressivement nous amène, et le dernier bastion à être soumis à cette mort sera le corps. Donc, cette progression, c'est un peu cette naissance de notre véritable identité, le deuxième Adam, une émergence. Et nous allons, pour suivre cette émergence, emprunter à la Bible son vocabulaire, qui est bien plus que ce que peut-être dans certaines formes de nos civilisations, nous en avons fait. Je vais emprunter, comme je l'ai fait tout à fait au début, dans le livre de Job, les deux mots « entendre » et « voir ». Vous savez que Job a dit, et je crois que c'est dans le chapitre 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est bien plus que quelqu'un qui a entendu des discours sur Dieu et puis qui brusquement a eu une vision. Vous voyez comment on a toujours tendance à ramener au niveau de nos sens physiques. Je vous fais remarquer qu'il a dit « mon oreille » et « mon œil ». Il n'était pas un homme qui n'avait qu'un seul œil et qu'une seule oreille. Pourquoi utilise-t-il le singulier ? La raison, c'est Dieu pour insister sur le fait qu'il s'agit là d'une perception beaucoup plus profonde que simplement la perception par la vibration du tympan ou du nerf optique. C'est bien plus. Entendre parler, c'est voir les œuvres de Dieu. C'est voir que quelque chose se passe, qui dépasse notre entendement. Mais c'est tout. On assiste là en tant que témoin. J'aime beaucoup la phraseologie hébreu qui souvent dit « j'ai entendu avec mes yeux ». J'ai entendu Dieu avec mes yeux. Ça veut dire que, en observant, et je vous assure que le monde observe ce qui se passe dans le peuple de Dieu, beaucoup plus que vous le croyez. Quand il voit des gens dont les vies changent, quand il voit des miracles de guérison, quand il voit des choses extraordinaires et même ordinaires, mais inconcevables sur le plan de la science, un être qui se transforme, changé. Bien sûr, ils essayent de mettre une théorie là-dessus. Or, ça, c'est une espèce d'intuition qu'il a eue ou une extase religieuse. Ils mettent des mots dessus sans pouvoir trop bien expliquer cela. Et pourtant, des vies changent. Là, ils entendent avec leurs yeux. Ils entendent parler Dieu sans le reconnaître. C'était le cas de Job. Il allait assez loin dans son entendement. Il était assez fidèle à ce Dieu. Mais c'était une relation avec un inconnu presque. Et puis, le voilà qui passe par l'adversité, et à l'issue de ce chemin difficile, il est capable de dire « mon œil t'a vu ». Encore une fois de plus, ce n'est pas l'œil globe oculaire. C'est ce discernement. Enfin, il discerne. Dans tout ce qu'il avait entendu par ses yeux, si je peux dire, il discerne qu'il y a bien plus qu'un Dieu inconnu. Il y a un Dieu extraordinaire qui s'intéresse à lui personnellement, un Dieu pour lequel Job est unique. Et vous êtes tous uniques ce soir aux yeux de Dieu. Et le fait d'être capable de le discerner, c'est ce qui arrive souvent lorsque une âme se tourne vers le Seigneur, c'est déjà un œil qui voit quelque chose de Dieu. Car personne n'a jamais vu Dieu, nous dit la parole. Ce n'est pas une vision physique. Mais déjà, un discernement profond commence et qui envahit toute votre existence. On pourrait dire, ça y est, on est arrivé. Une fois que j'ai entendu et que j'ai vu, j'ai fini. Non. La ligne de départ, ce n'est pas avant d'entendre. La ligne de départ est tracée au moment où j'ai vu, dans ce sens de discernement. Dans le sens où j'ai discerné, enfin, que dans tout ce que j'ai vu autour de moi, Ce Dieu dont on parle tant, en fait, c'est une réalité que j'aimerais connaître. C'est le point de départ, ça. Et c'est pour cela que nous allons voir, comme troisième étape, une étape fondamentale, il faut entrer à ce moment-là. Il faut entrer dans la réalité, et la connaissance ne fait que commencer. Et elle continuera par une croissance, comme je l'ai dit, qui se terminera dans une union totale. Une union totale avec celui avec lequel j'entre en relation. Nous ne comprenons pas ce sens d'union. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous ne comprenons pas parce que nous sommes bourrés de préjugés. Union, à la limite, on voit le mariage. On se permet de peut-être penser même à l'union sexuelle ou d'autres formes d'union. Mais union totale avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Notre préjugé, je veux d'abord comprendre. Ensuite, je vais accepter. Si ce soir j'ai dit, ne cherchez pas à comprendre, c'est que Dieu va s'adresser à vous, s'adresse à vous, par un canal complètement différent que nous allons découvrir. Et vous n'avez même pas besoin de comprendre. Comprendre viendra peut-être par la suite, ou ne viendra pas. Pour certains, ça viendra, ce sera peut-être diffus, mais peut-être le Seigneur leur demande de l'expliquer à d'autres. Pour d'autres, ça ne viendra pas, ça ne les empêchera pas de vivre quand même le sens de cette union. Car le but de Dieu, pour la création, c'est de s'unir à lui tout en Christ. Je vais vous donner un exemple pour illustrer pourquoi c'est la connaissance. Je vais le prendre sur le thème de la lumière. D'ailleurs, connaissance et lumière sont souvent synonymes et étroitement similaires. La lumière est notre perception. Je vous donne l'exemple d'un aveugle né, mais qui a un cerveau extraordinaire. Un cerveau extraordinaire veut dire que les rouages de son intellect tournent comme dans l'huile, et tout ce que Dieu a mis en lui de capacité logique, c'est le sens de la science, enfin l'un des moteurs de la science, va fonctionner. Mais il est aveugle né. Et très vite, alors qu'il ne sait rien de la lumière, il n'a pas perçu d'être aveugle, on lui parle de la lumière, il va à l'école, il va à l'université, il apprend sur la lumière toutes les théories, et il devient, parce qu'il est capable tellement de réfléchir, il a une vision tellement claire, si je peux dire, intellectuelle, de ce qu'il a appris, il est capable d'organiser des expériences, de prendre la direction d'une équipe, et d'étudier sur la lumière. Il devient le spécialiste mondial numéro 1 sur la lumière, toutes les théories, toutes les applications, etc. Est-ce qu'il connaît la lumière? Réponse, non. Eh bien, il est dans ce stade d'avoir, pour reprendre le langage biblique, il a entendu parler de la lumière, mais dans le sens le plus profond du terme. Il a entendu la lumière, si je peux dire. Il l'a perçue au niveau d'une certaine relation, au niveau de son intellect. Mais il ne sait pas toujours, car pour le moment, il n'a pas eu de vision de la lumière. Mais supposez que, soit par l'action d'un spécialiste qui corrige son œil, ses yeux, il est capable de retrouver la vision, soit par la puissance de Dieu, il est guéri. D'un seul coup, il voit la lumière. Eh bien, il est à ce deuxième stade. Tout ce qu'il a appris, au fond, est comme transcendé par le fait qu'il voit. Le nouveau-né, tant qu'il était aveugle, lui, avec toutes ses théories, en savait plus sur la lumière. Le nouveau-né qui avait une vue normale. Donc là, il voit. Est-ce qu'il connaît la lumière maintenant, au sens profond du terme? La réponse est toujours non. Et nous ne connaissons toujours pas la lumière, bien que nous la voyons. Car, supposez que j'éteigne cette pièce, je la plonge dans l'obscurité, et que je vous demande la question, qu'est-ce que c'est que la lumière? Eh bien, les uns diront, ah bien, c'est ce qui fait apparaître les couleurs, les formes, c'est un peu de chaleur, ça donne un relief. Qu'est-ce que vous faites quand vous dites tout cela? Vous ne faites qu'énoncer les propriétés de la lumière, ou plutôt, ce que la lumière fait sur vous, vous donne une idée des trois dimensions, de la couleur, de la chaleur. C'est tout. Vous allez me dire, oh ben oui, mais il y a le savant, lui, il va aller plus loin. Mais il ne fera pas plus, le savant. Sauf qu'il va utiliser des mots beaucoup plus poussés, sophistiqués.
Il va parler d'ondes, de particules, d'interactions, de vitesse de propagation, etc. Il va parler de beaucoup d'autres choses, mais il ne fera que parler des propriétés de la lumière. C'est-à-dire ce que ce mystère qu'on a appelé lumière, car lumière n'est qu'un mot, qui décrit quelque chose auquel nous réagissons de la même façon, à laquelle nous réagissons de la même façon. Ce mot lumière n'est qu'un mot, un langage. Vous avez prévenu. La science même, la plus raffinée, n'est qu'un langage. Et ce langage ne fait que parler de notre façon de réagir à la lumière. Et nos réactions à la lumière, nous en faisons un catalogue, une liste, c'est les propriétés. Donc, si j'éteignais cette pièce, et je vous demande, est-ce que vous connaissez la lumière? Certains diront, oui, je vais vous dire ce que c'est, ça fait ci, ça fait ça. On parle des propriétés. Mais il n'a jamais été question qu'une réalité soit réduite simplement à ses propriétés. La lumière est certainement bien plus que ce que nous en connaissons, bien plus que ses propriétés. Et en fait, nous ne le saurons jamais. Voilà dans quelle conclusion arrive même la pensée métaphysique moderne. Le monde qui nous entoure est un monde uniquement de perception. Quand nous parlons de la vérité scientifique, il n'y a pas de vérité au sens humain du terme. La vérité, c'est ce que nous en faisons, c'est tout. Barclay a dit ça il y a déjà 2 siècles, en Angleterre. La vérité, c'est ce qui nous apparaît être la vérité. Qu'est-ce que la vérité elle-même? Nous ne le saurons jamais dans ce contexte terrestre. C'est peut-être dur ce soir à saisir, mais vous voyez le bon sens derrière cela. La lumière, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et même l'aveugle guéri ne le sait pas toujours. Je vais vous donner une voie. Comment est-ce que je vais connaître la lumière? Si je deviens moi-même lumière. À ce moment-là, je suis lumière comme cette lumière. Qu'est-ce que ça veut dire devenir lumière? J'en sais rien pour le moment. Mais si je deviens moi-même lumière, je suis comme cette lumière, je suis intégré à elle. Je sais parce que je suis totalement lumière moi-même. Voilà déjà comme un aperçu, un écho de ce qu'est la connaissance. Voyez, nous sommes loin, en ce qui concerne la connaissance de Dieu, de simplement se ramener à des dogmes, des doctrines, un langage, des expériences. Tout cela c'est vrai, mais ce sont des propriétés de Dieu sur notre vie, sur notre pouvoir de réflexion, sur notre pouvoir de vivre à son diapason. Mais Dieu est bien plus. Et il ne veut pas nous cantonner dans une connaissance limitée comme celle-ci. Il nous appelle à une intégration totale, devenir comme lui. Voilà ce qu'est connaître Dieu. Alors, où et comment allons-nous trouver au moins les éléments de cette connaissance? Car frère, vous nous avez dit que la connaissance, ce n'est pas seulement quand on arrive au bout. Quand nous sortons du temps et de l'espace, elle commence maintenant. Donc, comment, sur quelle base? Eh bien, tout le thème de la parole de Dieu, y compris l'Ancien Testament, quoique en termes voilés, la connaissance de Dieu, c'est Christ. Connaître Dieu, c'est devenir comme Christ. Mais vous allez me dire, mais Christ, attendez. Christ, oui, je vois. 20 siècles en arrière, c'était un être humain incarné, monté à la droite du Père après mort et résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans le Christ? Je pourrais utiliser des hyperboles à caractère théologique pour décrire cela, faire une belle dissertation, mais c'est bien plus. Christ, ça semble loin, irréel, quand on se limite, quand on ramène Christ au niveau du langage, et pourtant, Paul nous écrit une chose extraordinaire qui d'ailleurs nous ne fait pas avancer plus sur le chemin des explications, mais qui réjouit le cœur de ceux qui s'attendent à Christ. Et j'aimerais juste lire un verset, le verset 15 de Colossiens 1. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, je vais même lire le 16, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire, tout ce qui est à connaître vers lequel nous tendons tant, soit par nos facultés intellectuelles, artistiques ou autres, tout ce qui est à connaître, c'est Christ, c'est en lui. Donc Christ est le sommet de la connaissance, mais cette fois-ci, rappelons-nous, connaissance ne veut plus dire une relation dans le sens d'interrogation, d'explication et d'écriture, de langage, dans le sens d'intégration. Nous sommes appelés à entrer dans ce tout. Et cela a été préparé par Dieu dès le commencement. Maintenant, je vais vous lire trois passages que vous connaissez tous, mais peut-être dont vous n'avez jamais sondé la profondeur, ou peut-être vous l'avez fait, et ce serait intéressant de comparer. Tout d'abord, Genèse au chapitre 1, versets 26 et 27. L'homme est sur le point d'être ébauché, il est encore dans l'idée de Dieu. Et quand je dis idée, quand je dis ébauché, ces mots me semblent tellement légers par rapport à ce qui va se passer. Et au chapitre 1, versets 26 et 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Des répétitions qui nous semblent presque inutiles. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour apparaîtra une version moderne qui se fera jeu de ces répétitions, qui s'en débarrassera, car ça n'appelle plus, l'homme de la rue ne réagit plus à cela. Moi, je suis personnellement pour maintenir le texte original, même s'il n'appelle pas. Parce qu'on fait erreur quand on pense qu'il faut que ça appelle à l'intellect de l'homme de la rue. La Bible n'a pas été écrite pour l'intellect. L'intellect a la place, sa place, dans la création. Mais il n'a pas la place numéro un. J'ai appris beaucoup plus en revenant à un langage qui semble encore plus incompréhensible, l'hébreu. Qu'en nous cantonnant dans des tentatives pénibles quelquefois pour traduire l'hébreu. Et ici, dans le passage que nous avons lu, nous voyons deux verbes essentiels. Dieu dit « faisons » et Dieu créa. L'intention démarre par le faire, mais la réalisation, c'est le créer. Une différence fondamentale. Et la langue hébreu, et j'en ai parlé il y a un an ici, il y a une cassette là-dessus, je crois que c'est la première de la série. Oh non, c'est plus loin. Mais enfin, peu importe. Dieu dit « faisons » et la façon dont c'est écrit, l'hébreu dit « Dieu dit faisons homme », ils font sauter l'article. Alors que quand Dieu créa l'homme, ils mettent l'article. Tout cela a un sens extrêmement profond. Il nous est dit, grâce à cette dimension, cette troisième dimension de la langue hébreu, que quand Dieu fait, le fait de l'homme, c'est ce que nous voyons de l'homme. C'est ce que les sciences essayent d'étudier, à la limite, de modeler à travers des images. Et souvent, c'est bien maladroit. Le fait de l'homme n'est que, si vous voulez, l'extérieur de l'homme, le visible de l'homme. Et ça répond à la question « quoi est l'homme ?». Ça ne dit rien quant à son identité. Pour la science, tout homme est pareil sur le plan des fonctions. Quand on définit une fonction biologique, elle s'applique à tous les hommes, à des variantes près. Les variantes, d'ailleurs, ne sont pas dans l'essence même de la fonction, mais dans leur interaction avec le reste. Donc le quoi de l'homme est très impersonnel. Ce qui intéresse l'homme aujourd'hui, c'est de savoir qui il est. Or précisément, c'est le deuxième verbe. Quand Dieu passe à l'action, il fait plus que former. En plus de former, il crée. Et le créer répond à la question qui est l'homme. Qui est l'homme? Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à sa ressemblance. Voilà le qui, voilà le sens de notre identité. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Colossiens 1,15, il nous est dit que Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour voir que nous avons été faits à l'image de Dieu dans cette vision de Christ, pour une intégration à Christ. Christ est le sens de cette image. C'est un peu comme si Dieu avait mis le tampon, la marque de fabrique de sa création, c'est-à-dire nous sommes appelés à devenir en Christ comme lui. totalement intégrée. Une non-ressemblance, ce n'est pas, comme on le pense, simplement des vagues très parallèles. Dieu peut penser, donc l'homme peut penser, on tire les traits parallèles, mais c'est bien plus. D'ailleurs, en ce faisant, on réduit l'homme à l'image d'un concept, à une idée qu'on se fait de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Voir dans le sens de discerner, dans le sens de sa totalité. L'homme a été créé pour trouver son sens, son identité, dans la réalité de Christ en lui. Encore faut-il que cette réalité perce, émerge, et envahit sa vie. Mais elle est déjà là. Elle est implantée dans l'homme. Implantée dans le but que par un cheminement et un seul, nous la découvrions en nous et qu'elle fleurisse. Et ce cheminement, cette entrée dans la participation, c'est cette dualité mort-résurrection. Et toujours mort précédant résurrection. Lorsque je me tourne vers le Seigneur, il y a déjà une mort qui se produit en moi. Mais cette mort va continuer à gagner tout mon être, jusqu'au jour où elle gagnera mon corps. À ce moment-là, la résurrection pourra se faire totalement. Et la réalité complète de Christ émergera en moi. Vous voyez comment tout est progression, mais centré sur Christ. Et comme ça commence par une mort, et c'est ce qu'il faisait dire à Paul, qu'il prêchait la puissance de la croix, il prêchait Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il n'ajoutait pas ressuscité. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Voilà le sens de la réalité de Jésus-Christ. Quand elle va émerger en nous, ce ne sera pas un Jésus-Christ qu'on aura appris à l'école du dimanche. Bien sûr, il pourrait être très bien, à l'étude biblique très bien, je n'en disconviens pas. Mais ce ne sera qu'une ombre, qu'un langage de quelqu'un qui passe à un autre. Ce sera entendre à propos de Jésus-Christ ce langage. La réalité profonde de l'entrée, de la rédemption, c'est-à-dire celle de la croix dans ma vie, c'est déjà précisément voir et entrer. C'est la puissance, la seule puissance, le Jésus-Christ crucifié, auquel je serai identifié, qui me fera entrer dans la vie. Donc, dans le début de la connaissance. Donc, dans cette réalité implantée par Dieu en moi, tout être humain, même le pilote qui a descendu, le Boeing coréen, était, et celui qui a donné l'ordre, et Andropov, et tous ceux que vous pouvez connaître comme étant des gens méchants, ont cette réalité de Christ implantée en eux. C'est dans tout être humain. Qu'est-ce qu'ils en font lorsqu'ils frappent à la porte? Ça, c'est une autre question, mais elle a de l'importance. Mais cette réalité est implantée dans tout être humain. Maintenant, nous allons un peu plus loin, dans le psaume 119, au verset 73. Et nous lisons ces paroles, telles que Segond les donne. Vous allez voir, il va manquer un mot-clé essentiel. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Le mot qui manque, c'est le mot liaison. Et la Bible anglaise Moffat est la seule qui a restitué ce mot. Et voilà ce que ça donne. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, afin que j'aie l'intelligence et que j'apprenne tes commandements. Il y a de relations de cause à effet, à l'aide de ce mot « afin que ». Tes mains, vous voyez déjà, créer et former. Vous voyez comment ce tandem nous suit. Si l'animal a été formé, l'homme a été formé et créé. Il est quoi et il est qui en même temps? Réponse à quoi et réponse à qui? Donc, le créer et le former ont été mis en nous afin que j'aie l'intelligence et que j'apprenne tes commandements. Alors là, évitons tout de suite le raccourci de croire qu'il s'agit de prendre le décalogue et d'apprendre par cœur les 10 commandements. Ça n'a rien à voir. Quand la Bible parle, elle parle toujours sur un sens profond. Tous les mots de la Bible sont autant de paraboles, c'est-à-dire de portes, de tests, si vous voulez, pour que celui qui vient avec un préjugé en disant « tout ça c'est de la rigolade, mais je vais quand même lire », eh bien il s'en retourne encore plus appauvri. Alors que celui qui vient en mettant son pouvoir de comprendre pour le moment de côté, en disant « Seigneur, je viens bien pour bien plus, je viens pour recevoir », reçoive réellement. Et cette Bible nous montre que si Dieu nous a créés ainsi, c'est pour que déjà soit en nous cette motivation profonde de recherche fondamentale des commandements, c'est-à-dire bien plus que les commandements. Les commandements, le décalogue, sont une expression de la perfection de Dieu, de l'exigence de perfection, et pour montrer à l'homme qu'il ne peut pas par lui-même l'atteindre. C'est tout le drame de la civilisation d'Israël avant la venue de Christ, et même maintenant. C'est que les commandements montrent la perfection de Dieu et le fait qu'on ne peut pas les atteindre. Relisez Romains 4, 5, 6. Mais ces commandements ne sont pas pour autant à mettre de côté puisqu'on ne peut pas les atteindre. Au contraire, c'est notre vocation, la perfection. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, nous dit la parole. C'est notre vocation. Donc, ces commandements vont définir le but en nous. Et la force, c'est cette intelligence donnée de Dieu, cette faculté d'entrer dans cette réalité de la perfection progressivement. Si Dieu m'a créé et m'a formé, c'est pour que j'aie cette force motrice en moi et que sans cesse j'apprenne. Et je l'ai. Tout homme là, qu'est-ce que nous en faisons? Ou nous l'ignorons complètement, ou alors nous la réduisons, nous la détournons vers simplement une petite étude biblique que nous quittons en disant « je fais mon devoir, j'ai ouvert ma Bible » le matin ou le mercredi soir, et puis voilà. Mais c'est bien plus, Dieu nous appelle quand nous ouvrons la Bible à exercer précisément ce don qu'il nous a donné de percevoir, d'entrer. Troisième texte, 1 Corinthiens 2, versets 6 à 13. Nous les avons lus, j'aimerais les relire. 1 Corinthiens 2, versets 6 à 13. Non, nous n'avons pas lu, c'est pas là que j'ai lu, mais enfin, c'est l'écho de ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 13. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits, ceux que Dieu a créés pour être parfaits. Personne n'est parfait sur terre. Ce qui compte, c'est pas d'être parfait, c'est de progresser vers la perfection. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Vous voyez comment ça revient, œil, oreille. Qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et ce que le frère Jacques, tout à l'heure, nous a dit dans sa prière, en écho à cette parole, les choses de Dieu dans l'Esprit de Dieu. Mais, regardez tout de suite, ces choses, l'oreille ne les a pas entendues. L'œil ne les a point vues. Elles ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Alors certains vont dire, ça, frère, c'est en pleine contradiction avec ce que nous avez dit jusqu'ici. Vous nous parlez d'œil, d'oreille, de cœur, croître, mais la Bible dit l'opposé. C'est pas vrai. Elle ne dit pas l'opposé. Que Dieu a préparé. L'œil n'a pas besoin. Si je ne comptais que sur l'œil, c'est-à-dire, commençons par l'oreille, si je comptais que sur ma façon de voir ce qui se passe autour de moi pour connaître Dieu, je serais loin du compte. Si je comptais que sur une interaction, une entrée en contact avec lui, à travers cette perception, ce discernement profond, dans le voir, l'œil qui a vu, lorsque je me tourne vers lui, si je ne comptais que sur cela, je ne sais toujours rien de Dieu. Je sais déjà un peu plus. C'est toujours rien à côté de sa totalité. Et même si j'essaye, par la méditation, par un effort de vie religieuse, de faire monter dans mon cœur toutes ces choses qui sont dans la parole de Dieu, que Dieu a préparées à travers les circonstances, je ne connaîtrai toujours rien de Dieu. Et pourquoi? Parce que je ferai un travail inutile. Ces choses ont déjà été mises dans l'homme. Quand vous avez, par exemple, un grenier, où vous mettez votre blé ou des pommes de terre, ou peu importe, quelqu'un va vous dire, est-ce que je fais monter les pommes de terre, alors que vous savez qu'il y a ce qu'il faut. Vous allez dire, c'est pas la peine, c'est déjà là. C'est aussi simple que ça. Dieu n'a pas fait monter les choses dans le cœur, il les avait mises dès le départ. Il n'y a plus besoin de les faire monter par un effort. Il n'y a pas besoin de limiter la connaissance à ce que j'entends, ce que je vois et ce que j'acquiers. Ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi qui accumule de la connaissance. Voyez une deuxième notion avec laquelle il faut se séparer tout de suite. La connaissance, ce n'est pas ce que j'accumule. Les éléments de la connaissance ont déjà été préparés par Dieu. Ils sont dans l'homme, dans le plus profond. Je vais vous donner un exemple pour vous aider à saisir. Prenez une pièce obscure. J'en viens souvent à la pièce obscure. Il y a des trésors incroyables. Mais cette pièce, c'est la vôtre. Et tous les trésors sont pour vous. Seulement, tant que vous êtes dans cette pièce obscure et qui ne s'est jamais fait de lumière, vous n'en savez rien du tout. Vous pouvez vivre dans cette pièce obscure, passer toute une vie et mourir. Vous serez passé à côté de richesses extraordinaires pour la simple raison que la lumière n'a pas jailli. Et supposez que, juste, le temps d'un éclair, un rayon traverse et s'éteint. Eh bien, si votre œil est exercé, immédiatement vous avez vu dans tel coin, oh, un trésor, une pierre précieuse ou un ornement extraordinaire. Et vous savez qu'il est là. Même la pièce étant replongée dans l'obscurité, vous l'avez vu. Mais vous l'avez vu non pas parce que c'est vous qui avez fait monter ça dans la pièce, ça y était déjà. La seule chose qui s'est produite, c'est qu'une lumière est passée, et vous éclairez. C'est exactement ce que dit Paul. Ces choses sont préparées. Votre être entier est plein des choses de Dieu. En fait, les choses, c'est un bien pauvre mot. C'est Christ, ces choses. Votre être, et nous l'avons lu dans Genèse, fait à l'image de Dieu, c'est cela. Toute la réalité de Christ est déjà en vous, dans votre être total, bien plus que votre être physique ou intellectuel. Et ça englobe tout cela, mais ça va beaucoup plus loin. Tout est déjà en vous. Mais tant que l'homme est hors de Dieu, il vit dans l'obscurité totale, il n'en sait rien du tout. Se tourner vers le Seigneur à travers la conversion, voir, discerner, c'est déjà un éclair qui passe. Et d'un seul coup, je vois quelque chose de la réalité de Christ. Rappelez-vous, pour ceux qui se sont tournés vers le Seigneur, un peu comme Paul, à la lumière d'un éclair, rappelez-vous ce que vous avez vu de Christ, de son amour, de la réalité. C'était bien plus que tout ce que vous aviez pu apprendre. Ça avait un tel sens, c'était tellement chaud à votre vie et votre cœur. Ce premier amour dont parle l'Apocalypse. Voilà déjà un éclair, mais ça, ce n'est qu'un commencement. Dieu a mis la réalité de Christ en vous. Il n'a pas besoin de la faire monter, de la sortir d'une boîte magique. Il n'a pas besoin à vous d'essayer d'acquérir la connaissance de Christ. C'est déjà en vous, tout ce qui manque, c'est la lumière. Et ce sera le rôle de l'Esprit. Dimension fondamentale, comme nous allons le découvrir. Incroyable sagesse de Dieu. Tout a été fait à l'avance. Et l'Esprit a ce pouvoir de réactiver tout cela. Ce sont des richesses dormantes. Certains mourront sans jamais avoir connu Christ, sans jamais avoir su que la réalité de Christ était en eux, mais complètement ignorée. Et seul l'Esprit va l'amener. L'Esprit sera là dès le moment de la conversion. L'Esprit sera là quand nous ferons un pas de plus, quand il nous éclairera de plus en plus. Il sera là quand il nous revêtera de sa puissance, partout l'Esprit. C'est lui la lumière qui nous révèle cette réalité. Tout est déjà prêt. La réalité de Christ, la connaissance de Dieu, ce n'est pas à acquérir, c'est déjà en vous, en moi, en tout être humain. Il faut simplement s'offrir à l'action de l'Esprit. Et nous verrons qu'il n'y a qu'une seule porte qui déclenche cela, et une seule voie, celle de Golgotha. Je presse Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et quand je célèbre la communion dans cette connaissance, quand je célèbre au niveau du pain et du vin que je prends le dimanche matin, je fais bien plus que commémorer ce qui s'est passé il y a 20 siècles. Je communie sur un niveau profond. Dans cette connaissance de Dieu qui est Christ, je communie avec Christ, j'entre en lui. Mais j'entre au niveau d'un Christ crucifié. Car à chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de ce vin, c'est sa mort que vous annoncez. Pas sa résurrection, sa mort. Parce que la mort est la porte d'entrée dans la résurrection. Et si je veux passer à côté de la mort, entrer dans la résurrection et crier Alléluia, je deviens un triomphaliste et je ne connais rien de la résurrection. Je simule une résurrection et c'est horrible. Le monde vomit un christianisme comme ça. Il n'a aucun impact et les églises se vident. La réalité fondamentale de la première lumière qui jaillit, c'est celle de la croix. La seule puissance qui terrasse l'obscurité. Et je voudrais terminer par cette note. Car, si la connaissance de Dieu c'est Christ, est-ce qu'on ne pourrait pas dire un peu plus? Il n'y aurait qu'un mot, même pas une phrase, encore moins un livre, un seul mot. Amour. Voilà la substance, si je peux dire, et le mot bien pauvre, de cette connaissance. Entrer en Christ, c'est entrer dans l'amour de Dieu. Parce que quand on dit l'amour de Dieu, on voit Dieu, et comme propriété, il est plein d'amour, il a de l'amour. Mais Jean dit, Dieu est amour, c'est Dieu lui-même l'amour. Dieu amour, je devrais écrire Dieu trait d'union amour, c'est la même chose. Donc entrer dans la connaissance, c'est déjà entrer dans l'amour. Et d'ailleurs, j'aimerais juste pour terminer lire ce passage, 1 Jean 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Connaître, c'est aimer. Celui qui prétend connaître et qui n'aime pas, ne connaît rien du tout. Car le test qui va nous montrer que nous sommes réellement entrés dans la connaissance, c'est le débit, le rayonnement de cet amour extraordinaire de Dieu. Pas notre amour. Oh, nous sommes capables d'amour. Les gens qui ne croient pas sont capables d'amour. Mais ça, c'est au niveau de leur très bon. Et ça ne vit pas longtemps. Ils vont aller jusqu'à peut-être des miracles d'héroïsme, de sacrifice pour les autres, mais tôt ou tard, ça va disparaître. Car dans l'éternité, il n'en restera rien. C'est ça le but du très bon, pour montrer que par lui-même, ce n'est pas viable. Mais l'amour dont je parle, c'est l'essence même de Dieu. Qui, lorsque nous entrons en lui, il entre en nous. Et cet amour commence à couler. Et je vous assure, ça fait toute la différence. Quand nous aimons les autres de l'amour de Dieu, c'est autre chose qu'une simple humanisme, une gentillesse, un simulacre d'être aimable avec les gens, dire « je vais montrer que je suis chrétien quand même ». C'est bien plus. C'est être envahi par cet amour qui nous terrasse et qui couvre les autres. Voilà l'amour de Dieu. Connaître et ne pas aimer est totalement incompatible, c'est stérile et c'est une fausse connaissance. L'amour de Dieu est la force de notre croissance. Lisons dans Éphésiens 3:19 simplement ce passage qui, à mon avis, illustre cela très bien. Éphésiens 3:19, Paul nous dit, nous sommes appelés à connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Cela même déborde toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et dans Philippiens, au chapitre 1, verset 9, il est dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, c'est-à-dire Christ. L'amour, note fondamentale de la connaissance. J'aimerais terminer là-dessus. Connaître Dieu, c'est devenir faire partie de Dieu, donc faire partie de son amour, devenir amour comme lui. Et le reste, si nous éloignons de cela, si nous négligeons cela, n'est que du vide, une cymbale qui retentit, comme dit Paul. Et il y a beaucoup de cymbales qui retentissent en ce monde, même dans certaines formes de renouveau, quand nous plongeons dans le renouveau, il y a une dimension de renouveau extraordinaire maintenant, on entend de plus en plus de cymbales. Car même l'explosion des dons de l'esprit, l'explosion de la puissance de l'esprit, n'a aucun sens si ce n'est pas fait dans l'amour. Et quand vous retirez l'amour, c'est horrible. Ça ressemble à du triomphalisme ou des gens qui ont quitté leur équilibre mental ou autre chose. Alors que l'amour est la puissance de rééquilibrage permanente qui nous ramène au diapason de Dieu. Rester en dehors, c'est rester aliéné. C'est demeurer dans la vanité des choses parce que connaître, c'est aimer. Que Dieu nous aide ce soir avec ce que nous avons entendu, qui est peut-être, comme je l'ai dit, lourd sur le plan comprendre. Mais c'est déjà un écho aux richesses que Dieu a mis en vous. tout ce qui a été dit si maladroitement ce soir est déjà au niveau en vous. C'est déjà quelque chose que vous pouvez acquérir. Mais laissez entrer l'amour de Dieu. Il a toute une révision à faire. Et nous allons voir cela dans les séances qui viennent, plus en détail. Et vous allez voir comment Dieu est extraordinaire, comment il va nous faire entrer, il nous fait entrer dans cette connaissance de lui qui est bien plus que tout ce que nous avons pu imaginer jusqu'ici. Que Dieu nous soit en aide. Amen.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.